Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1880, puis repris dans une édition augmentée en 1883, Le droit à la paresse est un pamphlet social de Paul Lafargue, militant socialiste français et gendre de Karl Marx. Sous un titre provocateur, le texte ne célèbre ni le désœuvrement subi ni le refus de toute activité. Il attaque plutôt le culte moderne du travail salarié, particulièrement dans le contexte de la révolution industrielle, où de très longues journées épuisent les ouvriers, les femmes et les enfants. Lafargue répond à la revendication du droit au travail portée en 1848 par une thèse inverse: une société réellement émancipée devrait limiter fortement le temps consacré à la production. Son horizon volontairement radical est celui de 3 heures de travail quotidien. Le reste du temps devrait appartenir aux loisirs, aux relations sociales, aux plaisirs et aux activités choisies. Mêlant satire, polémique politique et critique économique, cet essai interroge la production excessive, la discipline industrielle et la manière dont une valeur morale peut justifier des inégalités durables. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la paresse comme refus du culte moral du travail, le point de départ de Lafargue est une inversion délibérée des catégories morales dominantes. Dans les sociétés industrielles du 19e siècle, travailler beaucoup est présenté comme une vertu, tandis que la paresse est assimilée à un vice individuel. Lafargue soutient que cette opposition masque une réalité sociale: le travail salarié intensif peut dégrader les corps, réduire les existences à la survie et priver les travailleurs de toute autonomie sur leur temps. La paresse désigne donc moins une inertie qu'un droit à ne pas être entièrement absorbé par les exigences productives. Cette provocation vise aussi les organisations ouvrières lorsqu'elles font du droit au travail leur revendication centrale. Selon lui, réclamer du travail sans contester son volume ni ses finalités risque de reconduire la dépendance envers les employeurs. Le texte refuse ainsi de mesurer la dignité humaine à la productivité. Il invite à distinguer les activités imposées pour produire des marchandises des activités librement choisies, telles que le repos, la sociabilité, la création ou le plaisir. Cette critique conserve une portée intellectuelle, elle oblige à examiner les justifications morales du surmenage, plutôt quoi à considérer celui-ci comme une nécessité naturelle ou comme une preuve de mérite. Deuxièmement, la journée de 3 heures comme horizon politique et technique. La proposition de limiter le travail à 3 heures par jour constitue le geste le plus célèbre et le plus radical de l'essai. Elle ne doit pas être lue comme un programme administratif immédiatement applicable dans tous les secteurs, mais comme une critique de la distribution du temps rendue possible par les progrès techniques. Lafargue observe que les machines et les gains de productivité pourraient réduire la paix humaine nécessaire à la fabrication des biens. Or, dans le système qu'il critique, ces gains ne se traduisent pas principalement par davantage de temps libre pour tous. Ils peuvent au contraire nourrir l'intensification du travail, le chômage ou la multiplication des biens à écouler. La journée de 3 heures sert donc à déplacer la question politique au lieu de demander seulement davantage d'emplois. Il faut demander qui bénéficie du progrès et comment se répartit le temps libéré. Cette thèse fait du temps une question de justice sociale. Les catégories aisées disposent plus facilement de loisirs, tandis que les salariés les plus précaires supportent les contraintes les plus lourdes. Lafargue affirme ainsi que la réduction du temps de travail ne relève pas seulement du confort individuel. Elle représente une condition de participation à la culture, à la vie familiale, aux échanges sociaux et à une existence qui ne soit pas dominée par la nécessité de vendre sa force de travail. Troisièmement, la surproduction comme conséquence du travail sans limite, Lafargue relie le culte du travail à une critique de la surproduction capitaliste. Lorsque produire toujours plus devient un impératif, la société fabrique des quantités de marchandises qui excèdent les besoins ou les capacités d'achat des populations. Le problème ne réside donc pas seulement dans la pauvreté des travailleurs, mais dans une organisation irrationnelle où l'on impose des efforts considérables pour créer des biens dont la vente demeure incertaine. Cette analyse permet à Lafargue de contester l'idée selon laquelle toute augmentation de la production équivaut automatiquement au progrès collectif. Une économie peut être techniquement plus efficace tout en distribuant mal ses fruits et en maintenant la misère. La recherche de débouchés devient alors un enjeu central avec des effets sociaux et politiques qui dépassent l'usine. Dans cette perspective, travailler moins ne signifie pas appauvrir nécessairement la société. Cela suppose de produire de manière plus proportionnée aux besoins et de répartir autrement les bénéfices du progrès. Le pamphlet ne fournit pas une théorie économique complète au sens contemporain, mais il expose une tension durable: une production orientée vers le marché peut continuer à croître même lorsque les besoins essentiels sont insuffisamment satisfaits. Sa force polémique vient de ce renversement qui présente l'exceptionnel volume de travail non comme une solution, mais comme un élément du désordre économique. Quatrièmement, le progrès industriel doit libérer du temps plutôt que discipliner les corps, la machine occupe une place ambivalente dans la pensée de Lafargue. Il ne la traite pas simplement comme un ennemi des ouvriers. Les innovations techniques peuvent alléger les tâches pénibles et rendre possible une réduction considérable du travail nécessaire. Le problème est social et politique sous le régime industriel dénoncé par le pamphlet. Les machines ne libèrent pas automatiquement les personnes qui les utilisent. Elles peuvent servir à accélérer les cadences, à subordonner les travailleurs à la discipline de l'usine et à concentrer les bénéfices chez les détenteurs du capital. Lafargue refuse donc le fatalisme technique. Une invention ne possède pas en elle même une destination émancipatrice ou oppressive. Ses effets dépendent de la manière dont la société organise la propriété, la production et le partage du temps. Cette idée rend son texte plus précis qu'une simple nostalgie d'un monde antérieur à l'industrie. Son auteur ne demande pas l'abandon du progrès, mais son réemploi au service d'une vie moins épuisante. La libération envisagée implique que les gains de productivité deviennent du loisir partagé plutôt que du profit privé ou une cause de chômage. Cette interrogation demeure utile pour analyser les promesses contemporaines de l'automatisation. Le progrès ne se juge pas uniquement à la production obtenue, mais aussi au temps, à la sécurité et à l'autonomie qu'il rend réellement accessible. En dernier lieu, une polémique située dans la condition ouvrière et familiale du 19e siècle. Le droit à la paresse prend sens dans un contexte de révolution industrielle marqué par la dureté des conditions de travail et par l'exploitation de populations vulnérables. Lafargue insiste sur les conséquences du travail intensif pour les familles ouvrières, notamment lorsque femmes et enfants sont eux aussi entraînés dans les manufactures et les mines. Cette dimension empêche de réduire son texte à une défense individualiste du loisir. Ce qui est en jeu est la possibilité d'une vie familiale, corporelle et sociale qui ne soit pas détruite par les horaires et les exigences de production. Son style satirique et ses formules excessives appartiennent au genre du pamphlet Lafargue, cherche à scandaliser une morale qui transforme la souffrance laborieuse en vertu. Cette stratégie possède toutefois des limites. Certaines généralisations, références historiques et oppositions très tranchées reflètent les combats idéologiques de son époque et ne valent pas toujours comme analyse nuancée. Lire le texte aujourd'hui demande donc de distinguer son diagnostic majeur de ses simplifications. Son apport durable réside dans la question posée : pourquoi une société qui accroît ses capacités productives accepte-t-elle que tant de personnes manquent de repos, de sécurité matérielle et de maîtrise sur leur temps ? En articulant le travail à la famille, à la santé et aux rapports de classe, Lafargue donne à cette question une profondeur collective. En conclusion, le droit à la paresse intéressera les lecteurs de critique sociale, d'histoire du mouvement ouvrier, de pensée marxiste et de débats contemporains sur la réduction du temps de travail. Il peut aussi être utile à toute personne qui souhaite interroger la place prise par l'emploi dans la définition de la dignité, de la réussite et de la citoyenneté. Sa lecture apporte moins un plan détaillé de réforme qu'un instrument de décentrement. Elle conduit à regarder le temps libre comme une ressource sociale inégalement distribuée et à demander si les gains techniques servent réellement à alléger les vies. Le pamphlet se distingue des essais actuels sur le bien-être au travail ou l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée par sa radicalité politique. Lafargue ne recommande pas seulement de mieux concilier deux sphères. Il met en cause le principe même selon lequel la production doit organiser toute la société. Son objectif est collectif, car la liberté de chacun dépend de la transformation des conditions de travail et du partage des bénéfices de la productivité. Le style volontairement combatif peut déconcerter les lecteurs qui attendent une démonstration économique équilibrée. Certaines formulations portent clairement la marque du 19e siècle, mais cette vigueur est aussi ce qui donne au texte sa singularité. Il ne traite pas le repos comme une récompense après le travail, mais comme une condition de l'existence humaine et un enjeu central de justice sociale. Si vous souhaitez soutenir Paul Lafargue, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.